l'université de Strasbourg m'a demandé de faire cette enquête sur les chercheurs spirituels, et en particulier les nouveaux chercheurs spirituels, c'est-à-dire ceux qui n'empruntent pas les voies classiques proposées par les églises, mais ceux qui font du hors-piste, si on peut dire. Sauf que, d'une certaine manière, tout le monde cherche à donner un sens à sa vie. Donc c'est quoi mon échantillon? C'est 100% des Français, ce qui pose des problèmes méthodologiques évidents. Et d'ailleurs, je me suis amusé à regarder dans un dictionnaire de synonymes qui compile tous les dictionnaires de synonymes, donc vraiment la totale, les synonymes du mot « sens ». J'en ai trouvé 27. Et j'ai regardé les antonymes, il n'y en a que 7. Donc le sens est plus riche que le non-sens, mais en même temps, ça part dans tous les sens, si je puis dire. Donc j'ai conscience, amour, chemin, direct, discernement, perspicacité, philosophie, raison d'être, sagesse, signification, valeur, volupté, enfin il y a un peu tout. Et ça ne me va pas, si vous voulez, comme définition. Donc je me suis dit, je vais essayer de travailler sur ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie dans un cadre spirituel. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas mal d'enquêtes par sondage qui sont faites auprès des Français sur ce qu'ils pensent, etc. Et il y en a un certain nombre, souvent fait par le CNRS, mais pas uniquement, qui posent la question qui demandent aux gens s'ils se sentent dans un cheminement spirituel. Alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que, quelle que soit la manière dont la question est posée, et Dieu sait s'il y a des manières différentes, il y en a qui disent, alors la question, ça peut être, est-ce que vous êtes intéressé par le sacré et le spirituel? Ça peut être, est-ce que vous pensez que la dimension spirituelle et religieuse est importante pour réussir sa vie? Enfin bon, il y a des tas de formulations, c'est toujours un tiers. Un tiers des Français répondent positivement à cette question. Voyons le verre à un tiers plein plutôt que deux tiers vides. Donc, ça fait que je parle de la population adulte. Il faut juste savoir qu'un tiers des Français, c'est deux fois moins que les croyants. En gros, il y a 60% des Français qui disent croire en Dieu. Et un tiers des Français qui se reconnaissent dans la notion de spiritualité, c'est quatre fois plus que les pratiquants des cultes, qu'ils soient des cultes protestants, catholiques, etc. Voilà. Ben, enfin, un tiers, ça fait encore beaucoup. Et donc, on s'est dit, on va aller. Alors là, vous voyez, j'ai un entonnoir, je pars du sens. Après, les gens qui pensent que leur vie a une dimension spirituelle, mais qui éventuellement n'y pensent qu'une fois dans leur vie, le jour où ils se marient ou quand il y a un grand événement. Ce n'est pas forcément des gens qui ont une démarche permanente dans ce domaine. Et donc pour ceux qui ont une démarche permanente dans ce domaine, c'est-à-dire ceux qui entreprennent des démarches pour progresser sur leur chemin d'intériorité, on a eu une idée pour les saisir de manière à peu près scientifique, entre guillemets. On a décidé qu'on allait prendre un échantillon de gens qui y consacrent du temps dans un espace qui est fait pour ça. Alors du temps, ça veut dire des gens qui font des sessions, des cours, des semaines, tout ça, de développement spirituel ou de développement personnel. Et dans un espace pour ça, c'est-à-dire qu'il y a en France un certain nombre de lieux qui proposent une offre de développement personnel et spirituel. Ce sont parfois des lieux extrêmement importants qui peuvent proposer 300 trucs dans l'année, d'autres fois un peu plus spécialisés. Et au fond, on a fait une liste, on a pris tous ceux qui proposaient de la spiritualité hindoue, bouddhiste, chrétienne, il n'y a pas de raison de les éliminer, taoïste, du chamanisme, des médecines alternatives, du développement personnel, des pratiques corporelles énergétiques, de la méditation, etc. Donc on a repéré ces centres-là, et comme les copains de l'équipe les connaissaient bien, on leur a demandé de participer à l'enquête en envoyant à tous ceux qui, chez eux, avaient fait un stage, une session, des cours, n'importe quoi, dans les 5 dernières années, un mail en leur disant « si vous cliquez sur le lien, il y a un questionnaire formidable ». Voilà. Et dans ces centres, on avait des centres totalement non confessionnels, et on avait aussi des centres confessionnels, par exemple le Forum 104, pour ceux qui connaissent, mais qui ont, ou Saint-Hugues de Bivier, ou en fait certains nombres d'endroits comme ça, mais qui ont comme caractéristique de proposer à la fois la spiritualité chrétienne et d'autres types de démarches. Voilà. Donc ceux-là, on les a pris, ceux qui ne proposent que de la spiritualité chrétienne. Comme on fait une enquête sur les gens qui ont à la fois un pied dedans et un pied dehors, ils n'entraient pas dans l'échantillon. Et on leur a envoyé notre questionnaire. Et, en fait, on a eu un taux de réponse faramineux, parce que quand on interroge des gens intéressés par un sujet, sur le sujet qui les intéresse, et en passant par le lieu où ils ont manifesté cet intérêt, on a des taux de réponse extravagants par rapport aux normes de la pratique sociologique. On a 18% de taux de réponse, ce qui n'est du jamais vu sur Internet. Voilà. Alors, au total, parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire de la méthodo, mais c'est juste pour expliquer qui on interroge. Au total, donc, on a 23 centres associés. On a envoyé 50 000 mails. On a eu 8 000 réponses. Et c'est un mail qui faisait 45 minutes à répondre, parce que quand on interroge les gens sur leurs itinéraires spirituels, en remontant à leur petite enfance, à aujourd'hui, par où ils sont passés, ce à quoi ils croient, etc., c'est un peu long. Et on en a gardé 6 000. Pourquoi 6 000 et pas 8 000 ? Pourquoi ? Parce qu'on peut pratiquer ce type d'activité ou de recherche, je sais pas, mettons la méditation ou le développement personnel, sans l'inscrire forcément dans une démarche spirituelle. Donc la question, il y avait une question qui était planquée un peu dans le questionnaire, on leur disait, mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes engagé dans une démarche spirituelle ? Tout à fait, assez, un peu, pas vraiment, pas du tout. Et tous ceux qui suivent ce genre de choses, mais qui ne se réfèrent pas à une démarche spirituelle, on les a sortis des chantiers. Donc les 6 000 qu'on a gardés sont chimiquement purs, si je puis dire. Et en même temps, on sait où on biaise et on sait où on ne biaise pas. C'est-à-dire que le biais, il est clair. C'est qu'au fond, c'est pas une enquête sur les gens qui font des stages. Les stages ou des sessions, ça a été le lieu de recrutement. À partir de quoi on leur a parlé de plein d'autres choses. Mais nous échappent, évidemment, les gens qui ont une démarche active de recherche spirituelle, en dehors des clous, mais tout seul. Alors là, cela nous échappe. L'hypothèse qu'on fait, et on l'a un peu vérifié avec d'autres éléments, c'est qu'en tirant le fil qu'on a tiré là, il y a toute la plotte qui vient derrière. Et que d'une certaine manière, ce qu'on a trouvé là, ça nous dit beaucoup de choses sur les gens pour qui la recherche spirituelle représente un investissement, s'inscrit dans une progression, c'est une dimension qui est assez importante, et n'emprunte pas nécessairement les chemins balisés par les grandes religions ou par les grandes institutions. Voilà. Alors, maintenant, on arrête avec la méthodo, mais je pense que c'est toujours important de donner sa méthodo parce que on lit tous des sondages sans arrêt sur la popularité de machin et sur les immigrés et sur tout ça. Et quand on regarde la méthodo, quelquefois on a peur. Là, on a essayé de la contrôler au maximum. Alors, de qui parlons-nous ? Qui avons-nous trouvé ? Pour répondre de manière assez simple, on a pris les critères classiques des enquêtes, âge, sexe, catégorie sociale, etc. Et on a rajouté à ce profil social ou sociologique habituel un profil religieux, c'est-à-dire au fond d'où ils viennent, de quelle famille religieuse viennent-ils, quel type de pratique religieuse ils ont, s'ils en ont. Alors, profil sociologique, une majorité de femmes. Nos chercheurs spirituels sont des chercheuses spirituelles aux trois quarts et des chercheurs à un quart. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'au fond on est à l'intersection de deux univers, l'univers qu'on va dire religieux ou spirituel, où on sait qu'il y a une prédominance féminine. Il suffit d'assister à un office ou de regarder qui milite, c'est très clair. Il n'y a que les responsables qui soient des hommes, en tout cas dans l'Église catholique. Mais pour le reste, on a plutôt une majorité de femmes. Donc on est à l'intersection de cet univers-là et de l'univers du travail sur soi, de la psychologie, du développement personnel, etc., qui est aussi majoritairement féminin. Et donc au fond, là, on a une espèce de cumul de ces deux tendances, avec quand même un truc intéressant, puisqu'on a un peu de temps, je vous le dis, c'est-à-dire qu'on pourrait dire au fond, mais est-ce qu'il y a une manière masculine et une manière féminine de faire cette recherche ? Non, il y a une difficulté masculine à rentrer dans la recherche. Mais une fois dedans, on a comparé les réponses des hommes et des femmes sur l'ensemble des critères de pratique, de croyance, de comportement, et on a des réponses assez proches. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait problème, c'est de rentrer dans le circuit. Mais une fois dedans, les hommes et les femmes ont des démarches qui sont relativement... Donc il y a comme une barrière à l'entrée, si je puis dire. Ça peut faire partie du débat. Plutôt des femmes que des hommes. La pyramide des âges. La pyramide des âges, elle ne ressemble pas vraiment à une pyramide. C'est-à-dire qu'au fond, on a ce qu'on appelle une bosse démographique, dans notre jargon, entre 50 et 65 ans. Là, il y a quand même beaucoup de monde, il y a presque la moitié des gens. Il y en a 30% qui ont moins, 20% qui ont plus. Donc, si vous voulez, on a une répartition avec des trous aux deux bouts. L'âge moyen, c'est 55 ans, même si on peut calculer des moyennes. Alors, hypothèse, est-ce que c'est un effet d'âge ou est-ce que c'est un effet de génération ? C'est pas la même chose. Un effet d'âge, ça veut dire que quand on a atteint un certain point de son cycle de vie, qu'on a largué les enfants, qu'on commence à se demander comment ça va se terminer tout ça, etc. Ou qu'on a plus de temps. Enfin bon. Donc il peut y avoir autour de 50-60 ans un effet d'âge. Mais il peut aussi y avoir un effet de génération. L'effet de génération, c'est ce qui fait que tous les gens qui ont 50 ans ont eu 20 ans, c'est-à-dire se sont formés dans le même contexte historique. Tous ceux qui ont 30 ans sont formés quand ils avaient 20 ans dans le même contexte historique. Et ces deux générations. Alors il y a eu des travaux sur les effets de génération. On est, si je me réfère à ces travaux, dans la génération, disons 68, des gens qui ont eu 20 ans entre 65 et 75, et que ça continue à nourrir. Et puis on est dans la génération de la crise, c'est-à-dire ceux qui ont eu 20 ans entre 75 et 85, et que aussi ça continue à nourrir dans leur représentation du monde. Et je pense que l'effet de génération est largement aussi important que l'effet d'âge, pour le sujet qui nous intéresse. Plus une question sur laquelle je reviendrai, c'est que ce sont les dernières générations qui ont été christianisées, entre guillemets, encore assez massivement. Hein, la génération d'après débarque un peu là-dedans. Même s'ils ont tout envoyé promener, quand ils étaient petits, ils ont entendu parler de ça. Sexe, âge, catégorie sociale. Alors classiquement, dans les enquêtes de l'INSEE, on parle des catégories socio-professionnelles, qui sont des agrégats pas très intéressants pour nous. Mais qui existe quand même. Donc, on a une surreprésentation des classes moyennes. Une moindre représentation, mais quand même un peu élevée, des classes supérieures, et une faible représentation des classes populaires. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand on fait l'analyse, non pas par catégorie socio-professionnelle, mais par métier, puisqu'on leur a demandé leur métier. Et pour les retraités, leur ancien métier, de manière à voir quel était leur univers. Et en fait, il y a, en termes de métier, dans les chercheurs spirituels, une surreprésentation des métiers de la médiation. C'est-à-dire les enseignants, c'est-à-dire les professions de l'information, les animateurs, les professions des arts ou du spectacle, etc. Et on a une surreprésentation des professions de santé. Santé corporelle, santé mentale, psychologue, thérapeute divers, etc. Qui sont beaucoup plus nombreux. Ils ne sont pas très nombreux dans la population française, mais ils sont beaucoup plus nombreux dans la population des chercheurs de sens. Mais si on, enfin, des chercheurs spirituels, excusez-moi. Mais si on revient aux catégories classiques, classe moyenne, classe supérieure, etc., en vous disant que les classes moyennes sont très présentes, j'ai oublié d'ajouter une autre information, quel niveau de diplôme? Alors là, le niveau de diplôme est incroyablement élevé. C'est-à-dire 84% des personnes que nous avons interrogées ont fait des études supérieures. Ce qui, par rapport à la moyenne française, est deux fois plus, et ce qui, par rapport à la moyenne de leur propre génération, parce que s'ils ont 50 ans, à l'époque, tout le monde n'avait pas le bac, c'est trois fois plus. Donc, au fond, si on reprend les catégories classiques de Bourdieu, du capital économique et du capital culturel, on a des gens qui se distinguent particulièrement par leur fort capital culturel, plus que par leur fort capital économique. Ces fractions les plus diplômées des classes moyennes, si vous voulez, qui sont les plus nombreuses, plutôt que les notaires, les avocats, les professions libérales et les patrons. Dernier point, la répartition géographique. Bah, elle est équilibrée. On a un quart en région parisienne, un quart dans les grandes villes, un quart dans les petites villes, un quart en milieu rural. Donc vous voyez, quand on parle de chercheurs de sens, implicitement, on pense en gros des babacools, quoi. Or, ils devraient être urbains, bah, pas tant que ça, puisqu'ils sont bien répartis. Le babacool, c'est plutôt des gens aisés, pas tant que ça non plus. C'est des gens diplômés, alors là, oui, à fond. Et c'est des gens jeunes, bah, non, pas vraiment. Donc, si vous voulez, par rapport à l'image qu'on se fait du babacool qui est quelque part dans le travail sur lui-même et dans des trucs un peu new look, c'est pas si vrai que ça quand on est dans le spirituel. Dernier. Alors maintenant, on va passer au profil religieux parce qu'effectivement, personne ne vient de nulle part. Et donc, on a essayé de refaire la généalogie de leur parcours religieux par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, par rapport aux choix qu'ils ont faits en cours de vie et par rapport au point où ils en sont aujourd'hui. Alors, dans le bouquin, dont il y aura quelques exemplaires à la librairie après, c'est très détaillé, et en plus, il faudrait que je fasse des petits tableaux, c'est compliqué, mais en gros, l'idée, c'est qu'on leur a demandé d'abord s'ils appartenaient à une religion. Alors, on a repris la formulation des enquêtes du CNRS, est-ce que vous savez, que j'ai déjà oublié, quelle est votre religion si vous en avez une? Ce qui n'engage à rien, c'est pas la pratique, c'est l'univers. Alors, si je regarde les réponses, première information, il y a déjà 25% des chercheurs spirituels qui ne se reconnaissent d'aucune religion, mais vraiment délibérément. C'est-à-dire qu'on a 100% d'entre eux qui sont dans une démarche spirituelle. Donc c'est assez surprenant que le quart ne se reconnaisse d'aucune religion, quelle qu'elle soit. Deuxième information paradoxale, alors si on fait la somme de ceux qui nous ont dit qu'ils sont de culture assumée, protestants, catholiques, islam, juifs, etc., le total fait pas 100. Le total fait 110%. Donc c'est un autre élément qui est tout à fait propre à la recherche spirituelle, c'est la double appartenance, ou la non-contradiction, le fait qu'on puisse se dire à la fois chrétien et bouddhiste, ne pose pas de problème de cohérence, puisque c'est la personne qui fait l'unité, quand bien même les doctrines ne seraient pas unifiées. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de réponses. Les gens associent des réponses qui sont contradictoires selon les théologiens, mais qui ne sont pas contradictoires au niveau du vécu. Alors, troisième info, il y en a 60% de nos chercheurs qui se reconnaissent comme chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Petite précision, 2,5% comme protestants. Bah oui. Bon, c'était pas la peine de... Ce qui est en gros la moyenne nationale, d'ailleurs, ni plus ni moins. Donc là, il n'y a pas de biais particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui se reconnaissent comme chrétiens, il y en a 1 sur 6, enfin, oubliez les chiffres, c'est l'idée, 1 sur 6 qui disent « Moi, je suis chrétien, mais je suis ni catho, ni protestant, ni orthodoxe. Je suis chrétien. » Donc, ça, on ne l'a pas dans les enquêtes habituelles. Deuxième chose, c'est que parmi ces chrétiens qui se reconnaissent comme chrétiens, il y en a 1 sur 2 qui ne pratiquent pas. Et je ne parle même pas de tous les dimanches, je peux dire qu'ils ne pratiquent pas, sauf éventuellement les très grandes fêtes, les mariages, les baptêmes, les enterrements. Sinon, qu'ils ne mettent pas les pieds au temple ou à l'église. Et troisième information, toujours parmi eux, il y en a 4 sur 10 qui disent, tout en s'affirmant chrétien, se sentir assez loin ou très loin de la religion dans laquelle ils ont été élevés. Voilà. Donc au fond, ce qui les caractérise, c'est pas qu'ils sont de nulle part, c'est qu'ils assument une filiation, parce qu'après tout, ils n'étaient pas obligés de nous le dire, mais qu'ils ne revendiquent pas un rattachement. Ce qui est quand même assez différent. Alors, si je complète ce tableau par deux dimensions, ce tableau toujours du rapport à la religion, il y a deux choses qui me paraissent importantes pour comprendre un peu le positionnement des chercheurs spirituels investis, puisque c'est ceux-là qu'on a interrogés. Le premier, c'est l'intérêt très fort pour une autre religion que la sienne, même quand on en a une. Et la deuxième chose, c'est la distinction tout à fait radicale qu'ils font eux-mêmes entre spiritualité et religion. Je dis bien qu'ils font eux-mêmes, puisqu'au fond, on a recueilli, on a fait à la fois des questions fermées, c'est-à-dire est-ce que vous êtes tout à fait un peu assez, pas vraiment, pas du tout d'accord avec telle ou telle proposition, et puis pour chaque question, on laissait la possibilité, comme on est sur des matières un peu subtiles, à chacun de commenter sa réponse, de contester la question, de la reformuler, ou de raconter sa vie. Et normalement, personne n'utilise cette ressource, parce que c'est embêtant quand on répond dans un questionnaire, de faire autre chose que de cocher des croix. Il faut taper, parce qu'ils sont sur Internet, il faut taper du texte et tout. Et on a été totalement débordés par les réponses, par les commentaires. C'est-à-dire qu'au fond, je les ai mis bout à bout pour pouvoir les analyser en simple interligne, j'étais à 350 pages de commentaires ouverts. Donc c'est une étude à la fois qualitative et quantitative. Elle se voulait quantitative, elle est devenue qualitative. Et la distinction radicale que les gens font entre le spirituel et le religieux, je n'avais pas posé la question. C'est venu tout seul, et c'est venu partout, et je vais donc revenir là-dessus. Alors, la première question que j'avais posée, c'était bien sûr leur intérêt pour d'autres religions que la sienne. Alors celle-là, je l'avais vraiment posée. Et en fait, on s'aperçoit que cet intérêt est généralisé. C'est-à-dire que quand on leur... Alors on a fait un hit parade. On a mis le bouddhiste, le christianiste, le chamanisme, l'animisme, enfin on a fait la totale. Et en termes d'intérêt, pas en termes d'appartenance, 80% des chercheurs spirituels qu'on a interrogés, dont un paquet sont d'origine chrétienne quand même, 80% mettent le bouddhisme dans leur centre d'intérêt. Alors que seulement 8% se sont déclarés bouddhistes, à la question sur la religion de la fois d'avant. Donc c'est colossal. En deuxième dans le hit parade, le christianisme, qui est la religion dans laquelle ils ont été élevés, ou même s'ils n'ont pas été élevés, qui est la religion de leur environnement culturel, donc c'est normal qu'ils s'y intéressent, 72%. Troisième position, le chamanisme, Alors là, j'étais sidéré, autour de 50%. Parce que, alors moi, je ne savais même pas ce que c'était. Heureusement, j'étais avec une équipe de gens compétents. Et pour moi, c'était un truc régressif, genre mentalité pré-scientifique. Enfin, bon. Et en fait, non. Enfin, j'ai compris en les écoutant que cet intérêt était à la conjonction de deux aspirations, non pas régressives, mais très modernes, finalement. La première, c'est l'aspiration écologique. C'est-à-dire qu'au fond, on veut donner sa place à la nature, laisser parler la nature, écouter la nature, et on trouve bien ça là-dedans. Et l'autre point de convergence, c'est une recherche de la signification symbolique des choses, ou des faits, ou des événements. Signification qui a été tout à fait occultée, ou en tout cas mise sous le paillasson, par la réduction contemporaine au seul plan de la rationalité des choses. Voilà. Donc cette double aspiration, au fond, elle se trouve en terrain, non pas d'adhésion, mais au minimum de familiarité avec le chamanisme. Quatrième bruit de parade, l'hindouisme. 45% à peu près. Alors sans entrer dans les détails, ce qui est très intéressant, c'est que si on a fait l'étude dans les années 70, on aurait eu l'hindouisme en tête et le bouddhisme loin derrière. Et il y a un renversement complet. D'ailleurs, on est complètement sorti du New Age. Hein. Mais alors complètement, il y a des tas d'indices qui nous permettent de le voir. Alors après on a le taoïsme, après on a le judaïsme à 40%, c'est-à-dire au fond, c'est les racines du christianisme, c'est les racines de la religion dominante. 40%, c'est beaucoup plus que le nombre de juifs. Moi j'attendais un peu plus, pour des raisons de racines. Bon. L'islam, 30% seulement. Alors, entendons-nous bien. D'abord, le terrain a été fait avant les attentats de Charlie, mais la question n'était pas « est-ce que vous vous intéressez à l'islam ?» La question, c'était « est-ce que vous vous intéressez spirituellement ? Est-ce que vous avez un intérêt d'ordre spirituel pour l'islam ?» Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et l'islam fait les gros titres de l'actu, mais pas pour sa dimension spirituelle. Et du coup, voilà. Et l'animisme arrive loin, loin derrière, 22%. Voilà. Je reviendrai sur cette ouverture qui n'est pas du syncrétisme, c'est-à-dire que c'est une forme de curiosité qui ne met pas les choses à équivalence, et ce serait intéressant d'y revenir. Et pour ceux qui sont déjà de quelque part et qui le disent, ce n'est pas une dilution de leur religion dans une autre, c'est une dilatation de leur religion par des apports extérieurs. Et c'est justement ceux-là qui courent le moins de risques, c'est-à-dire ceux qui sont de quelque part peuvent beaucoup plus facilement aller voyager ailleurs sans se perdre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je vous ai promis la distinction entre la spiritualité et la religion. Distinction qui est venue d'elle-même dans les réponses. Alors, j'ai regroupé ça autour de trois idées. Il y a des gens pour qui la spiritualité s'oppose à la religion. Il y a des gens, deuxième regroupons, enfin je fais des familles, si vous voulez, quand on fait une enquête qualitative, on a plein d'interviews, enfin c'est très compliqué, on fait une analyse thématique, on fait des grumeaux, quoi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on essaye de regrouper des sous-thèmes. Le deuxième sous-thème, c'est la spiritualité, non pas comme opposition à la religion, mais comme dépassement de la religion. C'est le camp d'après, c'est le camp du dessus, plus exactement. Et puis il y a des gens qui ont une définition spontanée de la spiritualité, qui n'est pas référencée à la religion, ni pour, ni contre, ni au-dessus, ni en dessous, qui est une espèce de définition hors sol. Alors, je vais reprendre pour chacun de ces trois thèmes ce qui est sorti. La spiritualité contre la religion, c'est-à-dire que la religion se prend tous les attributs négatifs et la spiritualité tous les attributs positifs. Ce qui est important à savoir quand on appartient à une religion, ce qui est le cas, ou ce qui est le cas des catholiques. Alors, il y a quelques polarités. Parce que, évidemment, c'est argumenté tout ça. Alors, premier argument, au fond, la religion, c'est la division. La spiritualité, c'est l'unité. Alors pour chacun, je vais prendre une seule citation parce qu'il y en a plein de bouquins. Mais par exemple là, c'est « Les religions nous enferment dans une tradition, dans le temps et dans l'espace. La spiritualité rassemble tous les hommes, les religions les divisent. » Voilà, ça c'est dans les mots employés directement. Faute d'orthographe comprise. Alors, deuxième manière de l'exprimer, la religion c'est la fermeture. La spiritualité c'est l'ouverture. Pour moi, la religion est accrochée à sa divinité, Jésus, Dieu, Allah, Bouddha, et nous enferme dans une doctrine sectaire. La spiritualité, c'est le divin. Chacun de nous peut se connecter à un amour inconditionnel. C'est très clair. Troisième idée dans cette opposition radicale, la religion, c'est une institution. La spiritualité, c'est une aspiration. Ça ne fait pas bon ménage. Alors moi-même, comme beaucoup d'autres, j'ai une grande aspiration vers le sacré, vers Dieu, vers le travail intérieur, mais pas ou plus vers ce que donnent à voir d'elles-mêmes les religions officielles. Alors après, il y a toute une diatribe sur le Vatican, mais ça ne vous intéresse pas.
Et... Si, on est ouvert. Hein. En plus, on est dans le diocèse, alors on est très, très intéressé.
Non, mais c'est pas central. S'il y a des micros, Vous échappez à ça quand même. Et la citation continue après le Vatican. Hors les murs, il y a des mouvements spontanés de partage, de solidarité, de prise de conscience humaniste qui nous grandissent. Dieu a sa demeure dans tous les hommes de bonne volonté, loin des dogmes, loin des schismes. Quatrième idée, la religion est une contrainte, la spiritualité est un épanouissement personnel. Pour moi, la vie spirituelle, ça sert à vivre heureux. Alors ça aussi, c'est important, ce mot de heureux. Cette valeur a été perdue par les églises chrétiennes qui ne m'ont en rien aidé à vivre mieux. Et cinquième sous-thème, il y a un retournement paradoxal, c'est-à-dire qu'on nous explique que dans le mot religion, la racine étymologique, c'est relié. Et on a des gens qui nous disent qu'au fond, ce qui relie, c'est la spiritualité, et non pas la religion. Je me sens relié, donc c'est la spiritualité qui m'anime et pas la rigueur d'une religion. Voilà, je vous ai donné cinq manières d'argumenter, si vous voulez. Alors après, il y a des gens qui nous disent que la spiritualité n'est pas antinomique de la religion, c'est pas une opposition, c'est une inclusion. C'est-à-dire qu'au fond, les deux ne s'excluent pas, mais les limites de l'une, c'est-à-dire les limites de la religion, peuvent être surmontées par l'autre, c'est-à-dire par la spiritualité. Alors il y a plusieurs manières de le dire. Par exemple, première manière, c'est la religion, c'est une matrice, c'est une étape pour progresser vers la spiritualité. Il y a même une phrase qui est très claire. La religion représente pour moi l'école maternelle et primaire. Et la spiritualité m'a ouvert à un épanouissement sans cesse repoussé de mon intériorité. Autre idée, la religion, c'est une forme primitive de la spiritualité. La spiritualité, c'est une forme aboutie. Voilà, toujours cette idée d'inclusion. Les religions, l'homme doit passer du stade de préhumain, ce qu'il est actuellement, au stade d'humain, qui est le rôle de la spiritualité. Enfin, bon, je vous fais le truc brièvement parce que c'est tellement passionnant que moi, j'arrivais plus à m'arrêter quand j'ai fait l'étude. Ça, c'est donc forme primitive contre forme aboutie. Il y avait matrice contre. Une matrice qui est une étape. Et puis, une autre manière de le dire, c'est la religion est un moyen. C'est le prix à payer pour accéder au spirituel qui est une fin. Mais pour autant, on s'en sert. Et il y a quelqu'un qui a une formule formidable. Je cite la phrase « L'église est comme le tuyau rouillé dans la montagne qui permet quand même à l'eau d'arriver jusqu'à nous. » Franchement, il n'y a plus besoin de faire l'étude. Hein. Voilà. Et puis, dernier thème dans cette idée de dépassement de la religion par le spirituel, c'est le thème de l'unité du spirituel et de la convergence des religions. C'est-à-dire qu'au fond, là je cite, « Avancer dans la spiritualité permet d'être de moins en moins sectaire quant à la religion, puisqu'au bout du compte, elles se rejoignent toutes et que Dieu est un. » Alors la question, que ce soit une perception en termes d'opposition, une perception en termes de dépassement, la question n'est pas de savoir s'ils ont tort ou raison sur le plan philosophique. Ou sur le plan théologique, j'étais amené à présenter ça à des évêques qui étaient totalement, enfin, qui expliquaient que les gens se trompaient. Oui, non, enfin, ça, la question, en termes de sociologie, la question ne se pose pas comme ça. Quand une perception est fortement ancrée, la question n'est pas savoir si elle est fausse ou vraie, mais si elle vous fait agir en fonction de cette perception. Quand un type est foncièrement amoureux d'une femme, le problème, ce n'est pas de savoir si cette femme a telle ou telle qualité ou tel défaut, c'est que cette femme le fait avancer. Voilà. Donc, la perception est un fait social. La question ne se pose pas de savoir si elle est juste ou fausse. Et elle détermine les comportements de nos chercheurs spirituels et les impasses qu'ils font sur les églises. Voilà. Mais à partir du moment où on connaît bien leur représentation, on peut faire la cartographie de leur perception, vous pouvez éventuellement agir en conséquence. Voilà. Mais là, bon, mon approche n'est pas du tout pastorale. Hein. Alors, là, vous avez dû le remarquer. Oui. Alors, troisième manière de se représenter le spirituel, c'est une définition qui ne s'oppose pas ou qui ne dépasse pas la religion. C'est la définition du spirituel en soi, ce qu'on appelait la définition hors sol. C'est-à-dire, c'est une définition par construction et non pas par différence. Hein. Alors, la phrase qui revient le plus souvent, et qui ne vaut pas que pour les chercheurs spirituels, mais qui est très importante pour eux, c'est que la spiritualité, c'est un chemin. C'est-à-dire que le chercheur spirituel n'a pas forcément vocation à devenir un trouveur spirituel, si on peut dire. Donc je vous donne une citation. Il y a beaucoup de chemins, beaucoup d'itinéraires, parfois des chemins de traverse, parfois des chemins sans issue. On n'est jamais vraiment arrivé, mais l'essentiel n'est-il pas d'être en route ? Voilà. Deuxième idée dans cette spiritualité en soi, c'est que, au fond, la spiritualité est une construction personnelle, propre à chacun, et qui ne passe pas forcément par les très grandes choses ou par les très grandes actions. C'est-à-dire, elle est à la recherche des moindres signes de transcendance dans l'épaisseur de la vie quotidienne. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans ce public. La vie quotidienne est une formidable école spirituelle dans la mesure où on développe la conscience et la capacité à se remettre en question. Enfin voilà, on a plein de phrases comme celle-là. C'est un chemin, c'est une conception personnelle, une construction personnelle, et ce qui est logique, elle passe, cette spiritualité, par une connaissance profonde de soi, qui est la condition de sa libération personnelle. C'est-à-dire que la connaissance dont on parle, c'est pas forcément une connaissance canonique, c'est pas forcément une connaissance cérébrale, c'est d'abord une connaissance de soi. La spiritualité est une démarche qui répond à l'appel intérieur vers la complétude, le non-manque, cela demande d'apprendre à se connaître vraiment, etc. Alors il y a des gens qui sont au centre des religions qui peuvent très bien se reconnaître là-dedans. Mmh. Mais disons que pour nos chercheurs spirituels, c'est central. Et puis, dernier point, des définitions en soi, c'est la spiritualité, c'est ce qui me relie au monde, à l'univers et au grand tout. Mais ce qui traverse toutes ces réponses, que ce soit celles qui s'opposent, qui oppose la spiritualité à la religion, en disant la religion c'est un corps de doctrine, c'est une institution, que ce soit les réponses qui voient un dépassement de la spiritualité grâce à la spiritualité, ou celles qui définissent leur sol, ce qu'on retrouve transversal, c'est le rôle central de l'expérience directe que l'on fait soi-même, et pas forcément de l'enseignement. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas propre à la sphère religieuse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est propre à la modernité. C'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on veut se passer d'intermédiaires. Alors là, c'est des intermédiaires entre soi et le divin. Mais si vous regardez ce qui se place sur le plan des partis politiques ou des syndicats, ou voire même de l'enseignement, où il y a déjà des gens qui rêvent de l'auto-enseignement sans prof grâce à Internet, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crise de la médiation. Et cette crise, elle vous atteint, mais ce n'est pas vous qui l'avez provoquée. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Il y a des incompréhensions, des méconnaissances de la religion qui sont provoquées par des erreurs, on va dire, de la religion. Voilà, je parle pour celle que je connais mieux, qui est le catholicisme. Mais il y en a d'autres qui sont provoquées par l'évolution de la modernité et qui s'appliquent absolument à tout. Donc au fond, là, l'idée, c'est de se passer d'un intermédiaire entre soi et le divin, c'est-à-dire de se passer d'une église, d'une communauté, sinon d'avoir une ligne directe avec Dieu, parce que tout le monde n'est pas mystique, d'être dans ce qu'on pourrait appeler une auto-spiritualité. Et l'auto-spiritualité, il faut quand même qu'elle se nourrisse. Il faut se nourrir des professionnels de la spiritualité. Et une des manières de la nourrir, c'est le retour aux sources. C'est-à-dire au retour aux grands textes fondateurs, qui Dieu sait s'ils sont difficiles à lire, et Dieu sait s'ils demanderaient une médiation pour les lire, mais non. Et je prends une phrase, les textes des principales traditions sont riches d'enseignements spirituels mais ont été dévoyés par les fonctionnaires de Dieu. Paf. Mais bon, ça on s'en fiche, on l'a mesuré dans l'enquête, on leur a demandé qu'est-ce que vous lisez pour alimenter votre démarche, et est-ce que vous lisez des grands textes fondateurs, est-ce que vous lisez des livres de spiritualité, etc., contemporains. Bon, et si je prends les textes fondateurs, c'est-à-dire les sources, la Bible, le Coran, les Sutras, les Védas, etc., je pense que dans la population française, ça ne va pas faire grand monde. Là, il y en a 36% qui disent qu'ils en lisent souvent, et 25% de temps en temps. On arrive à 60%, ce qui est énorme. Hein. Alors évidemment, la Bible arrive en tête, hein, mais c'est vrai aussi pour le livre des morts tibétains, pour les chants de Minarepa, la Bhagavad Gita, les Upanishads, le Coran, pas trop. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un fort éclectisme, c'est-à-dire que le même qui lira le Coran lira éventuellement le livre des morts tibétains. On est toujours dans cette dialectique du « et ». C'est l'un et l'autre, et non pas l'un ou l'autre, qui est vraiment quelque chose qui résume bien l'expérience des chercheurs spirituels. Alors, au fond, je parlais de l'expérience directe. Donc, le premier élément d'expérience directe, c'est l'accès direct aux sources, sans s'embarrasser des médiateurs ou des institutions qui sont chargées d'y donner accès. La deuxième chose, c'est l'expérience personnelle, c'est le vécu. Alors là, je recontextualise, parce que là aussi, ce qui arrive au spirituel, il arrive partout. C'est-à-dire, au fond, il y a aujourd'hui, dans la modernité, l'individu est au centre. C'est, j'ose pas dire l'alpha et l'oméga, puisque normalement, c'est la définition de Dieu, mais enfin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'individu, d'une certaine manière. Hein, et il y a une espèce d'hypertrophie du moi. Et ce souci de soi qui occupe une place centrale vient de beaucoup plus loin. Alors, je vais dire des choses d'une banalité totale, mais c'est vrai que le XXe siècle, c'est le siècle qui a vu s'effondrer ou reculer tous les messianismes, c'est-à-dire toutes les pensées du salut, que ce soit en Occident, le messianisme chrétien, ou que ce soit donc religieux, ou les messianismes séculiers, comme le marxisme. Donc au fond, puisque les systèmes ne font plus système, bon, il reste quand le système recule, il reste l'individu. Et cette évolution vient d'encore plus loin. Alors là, je vais citer Freud, qui parle des trois blessures symboliques. Il dit la première blessure symbolique par rapport aux représentations chrétiennes du monde, c'est Copernic. Donc ça ne rajeunit pas. Il découvre que la Terre n'est plus le centre du monde. Ce qui est tout à fait contraire au grand récit. La deuxième blessure symbolique, c'est Darwin, où on découvre que l'homme n'est plus au centre de la création, mais c'est le produit d'une évolution. Et, dit Freud, la troisième blessure symbolique, c'est moi, modeste, puisqu'il a découvert que la conscience n'est plus au centre de l'homme et que l'homme peut être dirigé à l'insu de sa conscience. Donc au fond, l'homme sort de ce grand récit et il ne reste plus que lui-même. Et il y a une phrase du Talmud que j'aime beaucoup, et qui ne s'applique plus forcément à cette démarche. Cette phrase disait « Je suis un mot dans une phrase qui a commencé à être écrite par mes ancêtres. » Et là, qui normalement, ça nourrit tout le spirituel, ça, c'est un peu moins le cas. Alors, je ne me retrouve plus dans mes trucs, moi.
Moi, je ne peux rien faire.
Vous pourriez faire pour moi, oui, non, mais c'est pas grave. Alors, un des effets de l'hypertrophie de l'individu, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est les personnes, non seulement soi, mais les autres personnes. Et il y a un exemple qui est tout à fait intéressant, c'est si vous regardez l'image de l'Église catholique. L'image de l'Église catholique est assez détestable dans toutes les enquêtes. Mais l'image de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, de Jean-Paul II à une époque, encore qu'on ait découvert qu'elle est la poussière sous le tapis, mais bon, ou du pape François aujourd'hui, est formidable. Et qu'au fond, il y a un truc qui était inimaginable avant, c'est que la popularité des individus coexiste avec l'impopularité des structures. Et donc le jugement personnel positif cohabite très bien avec un jugement institutionnel négatif, l'un n'entraîne pas l'autre. Voilà. Alors, donc un des effets de ce primat de l'individu, c'est la personnalisation. Un autre effet, c'est évidemment le rapport au corps. C'est-à-dire que le rapport au corps est devenu tout à fait central dans la démarche spirituelle. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la méditation. La méditation est, quelle que soit leur tradition spirituelle, nos chercheurs peuvent venir d'un peu partout ou se recommander de nulle part, la méditation est de loin infiniment plus que la prière, encore plus que la lecture. La chose qui est la plus pratiquée par nos chercheurs spirituels, c'est le cas de 70% quand même. 70% pratiquent la méditation, ou tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Donc ça veut dire que c'est une discipline de vie, c'est pas simplement un accident. Alors il y a plein de types de méditation, moi j'y connais rien, mais on m'a expliqué, il y a la méditation vipassana, qui est basée sur la respiration, la méditation transcendantale en utilisant les mantras, la méditation zen, pour décaler la vision de la réalité, la méditation en pleine conscience qui se développe beaucoup maintenant, et il y a aussi une tradition de méditation dans les églises, mais elle est un peu epsilonesque. Donc voilà, aujourd'hui, le corps, alors il y a aussi tous les exercices corporels, yoga, le yoga et tout ça, mais juste pour aller vite, le corps, c'est une porte d'entrée essentielle vers l'intériorité. Et c'est vrai que les discours qui font l'économie, les discours spirituels qui font l'économie du corps, risque d'être plus difficilement compris. C'est quand même une approche qui fait doublement rupture. Double rupture avec l'approche, disons, avec la tradition chrétienne, dominante en tout cas, où le corps a été le plus souvent perçu comme une contrainte dont il fallait se libérer. Hein? pour permettre à l'âme de s'élever. Et c'est également une rupture par rapport à la, je dirais, la philosophie des Lumières, pour lequel les pratiques, enfin c'est les pratiques intellectuelles et non pas les pratiques corporelles qui sont une voie d'accès à la connaissance du monde. Ils sont beaucoup plus cérébraux. Voilà. Alors, tout ça, rapport au corps, rapport aux différentes disciplines, rapport aux autres, nous introduit la démarche spirituelle ou la spiritualité dans une sphère où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire que, au fond, les gens en attendent une logique d'efficacité. C'est-à-dire que c'est vrai que l'expérience est centrale, mais il faut que ça marche. C'est-à-dire que l'expérience, c'est un vecteur de connaissance, mais ça valide une certitude. Globalement, c'est aussi très tendance, hein, très moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérience parle plus fort ou se substitue à l'expertise. Je prends un exemple qui est tout à fait en dehors de notre champ. Si vous regardez les émissions de société à la télévision, il n'y a pas si longtemps que ça, s'il y avait une émission sur, je ne sais pas quoi, la famille, il y avait un plateau avec François de Singly, avec un psy, etc., des experts. Maintenant, vous avez une divorcée, un enfant abandonné, voilà. Bon, et puis François de Singly, il est dans un coin. Et si François dit quelque chose, une analyse un peu globale, et s'il est contredit par quelqu'un qui vient de divorcer et qui en plus se met à pleurer,
il a tout faux.
Pourquoi ? Parce que la vérité du vécu est plus forte que la reconstruction cérébrale. Et du coup, c'est revenons au spirituel. C'est-à-dire que ce qu'on attend du spirituel dans ce public-là, c'est pas une vérité, c'est un épanouissement, fondamentalement. Et ce qui définit qu'une chose est bonne ou ne l'est pas, dans ce domaine-là aussi, c'est pas qu'elle est attestée par l'histoire, enfin ça peut aider, mais c'est pas qu'elle est attestée par un magistère, c'est que je l'ai éprouvée et qu'elle me fait du bien. Ce qui là aussi est un critère qui n'est pas dans, disons, qui n'est pas massif dans la tradition chrétienne. Voilà, donc il y a beaucoup de changements, ils sont des changements de la modernité qui vont nous changer, qui nous changent déjà et qui sont pas forcément liés au fait que les églises aient pris une mauvaise voie, mais c'est lié au fait que les églises ne l'ont pas entendu. Elles n'ont pas reconstruit leur message sans y renoncer, évidemment, en fonction de ces catégories. Et puisque vous m'avez donné un temps très long, je suis désolé pour... Parce que, bon, et du coup... Non, mais du coup, j'ai hésité à placer un truc qui me paraît important, mais je vais le placer. C'est-à-dire qu'au fond, dans la modernité, il y a des changements fondamentaux du rapport à l'individu, de la place de l'individu comme critère d'évaluation des choses. Et il y a un deuxième changement majeur qui est un changement du rapport au temps. Et je vais être hors sujet en n'étant pas hors sujet. C'est-à-dire qu'au fond, la perception du temps, donc là on est vraiment dans la phénoménologie, la perception du temps aujourd'hui, et ce changement de perception qui a des répercussions sur le religieux, il joue dans trois domaines. Le temps-rythme, le calendrier social est de moins en moins marqué. Le temps réversible, c'est le moindre engagement dans ses choix sur l'avenir. Et le temps-vitesse, qui est le développement d'une culture de l'impatience. Et tout ça fait beaucoup de mal aux religieux. Pas trop aux spirituels, mais surtout aux religieux. Le temps-rythme, c'est qu'au fond, maintenant, c'est quand on veut. Les choses, c'est quand on veut. Le calendrier social est moins marqué. Alors, je prends des exemples triviaux, mais vous allez voir qu'on va tomber sur nos pieds. Maintenant, le jour vaut la nuit, c'est-à-dire que les services, c'est 24 heures sur 24, ou 7 jours sur 7, voire la loi qui vient d'être votée sur l'ouverture des commerces du dimanche. Avant l'information, c'était à heure fixe, à la télé ou à la radio. Maintenant, c'est les flux continus, c'est quand on veut. C'est pas juste, on n'est pas obligé d'attendre 20 heures, etc. Alors, pour ce qui concerne le spirituel, les fêtes, Pâques, Noël, etc., peut-être pas Noël, mais Pâques, en tout cas, vraiment, sont totalement décalés par rapport aux vacances qui sont censées les marquer. Hein? Et avec les 35 heures, le week-end, ça peut être les récup, ça peut être n'importe quand. Donc, les temps sociaux sont de moins en moins marqués, ou les activités de moins en moins affectées à des périodes précises. Or, tout ça accentue la déritualisation des comportements. Et le mot « rituel » est quand même un mot tout à fait important pour accompagner la vie du croyant ou pour accompagner ses expériences. Et donc cette baisse de la ritualisation sociale qui vaut aussi pour la pratique militante. Hein, il n'y a plus personne dans les syndicats, mais il y a un monde fou dans les manifs. Hein. Et il y aura du monde dans 15 jours à la marche pour la planète, alors qu'il n'y a personne dans les réunions préparatoires. Je peux en témoigner. J'y vais. Bon. Donc on a un militantisme moral qui est un engagement dans des organisations à enjeu unique et à un moment unique. Et dans le religieux, c'est le fait de passer d'un temps rituel à des temps forts, on l'a vu sur les JMJ par exemple, qui était vraiment le temps fort, qui a ramené énormément de gens, mais dont on sait par d'autres enquêtes qu'après, les gens qui étaient allés ne se sont pas inscrits dans une ritualisation ou dans une répétition. Un autre effet de cette déritualisation, c'est que les temps du calendrier sont un peu désinvestis, mais les temps personnels sont surinvestis. Que ce soit les fêtes familiales, les décès, les accidents, les naissances, les mariages, etc., sont beaucoup plus surinvestis, d'autant plus surinvestis que le temps rituel est désinvesti. Et en particulier, même chez les pratiquants, on voit se développer ce qu'on appelle les pratiques occasionnelles et non pas les pratiques régulières, avec d'ailleurs un contresens sur le mot. On pense que le type qui va à l'office ou à la messe tous les dimanches, il est plus investi que celui qui va une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Pas du tout. Les pratiques occasionnelles, c'est quand on veut, au moment qui m'arrange. C'est-à-dire qu'un gars qui va en vacances en Bretagne, où il y a un recteur ou un prêtre absolument génial, il se tape toutes les messes pendant un mois. Et donc, il surinvestit cette démarche. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Ça veut dire qu'il n'investit que le jour où ça vaut la peine de son point de vue. Voilà. Donc ça, c'est une déritualisation. Mais du coup, on ne sait plus où sont les gens. J'ai un ami qui s'appelle Yves Lambert, qui est sociologue des religions, qui parlait de religiosité intermittente. Et il disait, au fond, c'est le modèle de la baleine. La baleine, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Donc ça a besoin de prendre de l'air. Donc à un moment, ça sort prendre de l'air, du spirituel, puis ça replonge. On ne sait pas quand elle sortira, on ne sait pas où elle sortira, mais elle sortira, forcément. Et du coup, on peut inverser la phrase bateau des églises qui parlent des croyants avec leur période de doute. Enfin, vous connaissez l'expression. Aujourd'hui, on est avec des doutants avec leur période de foi. C'est vraiment exactement le contraire. Alors, ça, c'était pour le temps régulier. Deuxième idée, c'est que le temps réversible, on est de moins en moins engagé dans ses choix. Et on a de plus en plus l'impression qu'on peut sortir comme on est rentré. Alors, je commence par du trivial, je finis par du spirituel, comme tout à l'heure. La vente par correspondance. Eh ben voilà. La vente par correspondance, avant, vous achetiez. Bon, vous pouviez changer s'il y avait un défaut. Après, on disait, vous pouvez changer si vous êtes trompé. C'est-à-dire, si vous avez pris du 43 au lieu du 46. Bon. Et maintenant, si vous regardez les catalogues de vente par correspondance ou Internet, vous pouvez changer si vous avez changé d'avis. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Prenez l'exemple du portable. Tout ça, l'air idiot, mais ça converge. Hein. Le portable, ça permet de se décider le plus tard possible et de changer d'avis au dernier moment. C'est-à-dire, tous les plans, on dit, bon, on se rappelle, on verra, etc. Et on se laisse open en attendant qu'il y ait un meilleur plan. On préserve la possibilité d'une alternative permanente. Bon, on peut analyser le Pax aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire, je continue tant que ça marche. Au lieu de dire, je continue parce que j'ai décidé que ça marcherait. Hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, le religieux ne s'y échappe pas. On voit se développer effectivement des comportements de nomadisme où les gens ont une phase chrétienne, mettons, puis une phase bouddhiste, et passent d'une spiritualité à une autre, non pas de manière superficielle, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est pas vraiment du zapping, c'est parce que c'est un autre rapport au temps et qu'on ne se pense pas engagé pour la vie. Voilà. Et je reviens à mon exemple des JMJ, on a vu ça aussi. Les JMJ, au début, ça a démarré petit, je parle en France, hein. Ils étaient aux Invalides, ils ne remplissaient pas vraiment. Et en fait, à la télé, on a vu des gens, puis on a vu qu'il y avait plein de monde, donc il y a des gens qui se sont dit, il y avait plein de monde, donc j'y vais, il y a eu de plus en plus de monde, et les gens sont restés libres de se décider au dernier moment. Donc, par rapport aux inscriptions, il y a eu infiniment plus, à cause de ce non-engagement, l'inscription, mais qui peut se traduire par un comportement, dans le cas des JMJ, c'est clair. Troisième idée, c'est le temps-vitesse. Alors, qui est aussi propre à la modernité, c'est un développement de la culture de l'impatience. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, je pars du trivial encore, la consommation. La consommation, maintenant, c'est partout livré en 48 heures, hein, voire livré en 24 heures, voire livré le jour même en payant un petit peu plus. Vous regardez ce qui se développe en cuisine, c'est les plats cuisinés gamme de temps. Moi, je suis bricoleur et c'est l'école instantanée. Et ceux qui sont jardiniers m'ont expliqué, j'ai eu ça dans un article, que ce qu'ils vendaient de mieux en mieux, c'est les plantes à croissance rapide. Donc, on est dans une logique de gain de temps, si vous voulez. Bon, on ne va pas trop parler de la vie affective et sexuelle, mais on pourrait la résumer en disant on conclut d'abord et on construit ensuite. Ce qui est aussi une petite inversion par rapport à ma génération. Si vous prenez la vie personnelle, il y a une baisse de la psychanalyse au profit des thérapies courtes. Hein. Voilà, on va en trouver partout. Et puis le culte de l'urgence dans le boulot, vous le connaissez. Et si vous changez votre ordinateur, c'est pas forcément parce qu'il est obsolète, c'est parce qu'il n'a pas assez de mémoire et que donc le temps qui sépare le clic de l'affichage fait qu'il n'obéit pas au doigt et à l'œil. Donc on lui recolle de la mémoire. Voilà. Et le zapping télé, on n'a pas le temps d'attendre que ça devienne bien, on va à côté. Alors, si vous voulez, c'est problématique pour la dimension religieuse, aussi pour la dimension spirituelle, mais surtout religieuse, parce qu'au fond, la démarche religieuse, c'est une démarche d'approfondissement qui s'inscrit dans une durée, dans une progression, qui nécessite des silences, des temps faibles, pas que des temps forts. Le temps faible prépare le temps fort. Si on va de temps fort en temps fort, c'est comme le zapping, c'est totalement hystérique, c'est-à-dire si on change sans arrêt pour avoir tout le temps des scènes d'action, c'est épuisant. Enfin bon. Et c'est le problème aussi des cérémonies religieuses, parce qu'au fond, si les enfants ou les adolescents s'ennuient à la messe ou s'ennuient au temple, c'est pas forcément parce que les messes sont nulles. C'est parce qu'elles contreviennent fondamentalement par leur rythme d'une part, par leur prévisibilité d'autre part, comme le péché suprême, à la culture de l'impatience. Voilà. Donc au fond, pour conclure cette longue digression par les évolutions du rapport au temps qui font des choses dans le rapport à la religion, on peut se demander si, au fond, ce qui s'oppose à la religion, c'est pas d'abord la religion du présent, et non pas le fait de valoriser à ce point religion. Et au fond, en tout cas par rapport à la religion chrétienne, qui est anthropologiquement une religion de la progression, voire pour d'autres qui sont des religions du retour, hein, pour des religions plus orientales, le problème, c'est que notre culture est une culture de la religion du présent. Et la question, c'est qu'est-ce que va devenir la religion dans une société soumise à l'impératif de l'innovation permanente et du changement. Le principal adversaire de la religion, c'est pas le matérialisme, c'est le présent. Voilà, alors, on a parlé du rapport au temps. Je vais revenir à mes chercheurs spirituels qui sont aussi... Enfin, ils ne sont pas que dans le religieux, même s'ils empruntent certaines choses. Et je voudrais terminer, puisqu'il me reste 10 minutes, terminer avec des idées toutes faites. Parce qu'au fond, on a tous une idée de ce que sont ces chercheurs spirituels qui ont soit les deux pieds dehors par rapport à la religion, soit un pied dehors et un pied dedans, mais enfin, qui se baladent un peu partout, on ne sait pas trop comment. Et voilà. Première idée toute faite, c'est des égocentristes. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la place de l'individu dans leur démarche, donc c'est des nombrilistes. C'est-à-dire qu'ils se prennent comme point de départ, ils se prennent comme point d'arrivée, et donc, s'ils s'intéressent à l'individu, ils sont dans l'individualisme. Pas du tout. Et ça, on le voit. Et dans les réponses fermées, enfin les questions toutes faites, et dans les réponses ouvertes, c'est-à-dire que dans ce qu'ils nous ont dit. Et là, j'arrive quand même... Je m'accroche un peu aux branches, à retomber sur le thème du témoin, qui est votre thème. Hein. Il y a une attention extrêmement forte chez eux à l'altérité. C'est-à-dire que leur chemin, il se fait dans la conscience de l'autre. Alors, ça s'exprime concrètement, ça s'exprime intellectuellement. Concrètement, on a des personnes qui recherchent l'empathie. L'empathie, ce n'est pas simplement le dialogue tes idées contre les miennes. L'empathie, c'est l'aspiration à se projeter à la place de l'autre pour mieux communiquer. Ça, cette démarche-là, elle est très très forte dans ce public. C'est-à-dire, pour te comprendre, je vais essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Et non pas, je vais essayer d'argumenter. Voilà. Et, d'une part, première forme de pratique de l'altérité, c'est l'empathie, et ce sont des personnes qui croient beaucoup à l'exemplarité. D'ailleurs, très souvent, dans les récits de vie, puisqu'on a des récits de vie dans le bouquin, mais là aussi, c'est... Je resserre. Beaucoup de gens nous disent ce qui m'a mis en marche ou ce qui m'a fait chercher dans telle ou telle direction, c'est une rencontre avec un témoin. C'est vraiment un truc pour vous. C'est-à-dire, ou avec quelqu'un d'exemplaire, mais pas exemplaire au sens que c'est un modèle. C'est exemplaire au sens du grand frère, hein. Celui qui a fait le boulot avant moi, qui éventuellement peut m'en parler, et dont je vois qu'effectivement, cette personne est intéressante. Voilà. Ça, c'est pour les relations de personne à personne. Et plus conceptuellement, pour dire que ce n'est pas de l'égocentrisme, sont des personnes qui se disent très solidaires de la communauté des hommes, et pour les plus écolos d'entre eux, de la planète. C'est une solidarité, mais qui n'est pas une solidarité militante, ou une solidarité missionnaire, ou prosélyte. Vous prenez le vocabulaire qui vous convient le mieux. Il ne s'agit pas nécessairement de militer pour changer le monde, mais il faut d'abord se changer soi-même pour changer le monde. Alors, ce n'est pas original, mais c'est central. Voilà. Première idée toute faite, pas d'égocentrisme, même si on est dans l'individu, au centre. Deuxième idée toute faite, complètement mise à mal par l'enquête, c'est que la recherche spirituelle ou personnelle, c'est un refuge par rapport à la société moderne. Voilà, qui fonctionne sur une logique de matérialisme dominant. Et du coup, ça pourrait soit déboucher sur un retrait du monde, soit déboucher, soit consoler du monde. Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, quand certaines personnes considèrent que la démarche spirituelle, surtout si elle est collective, c'est une démarche sectaire, parce que les démarches sectaires, c'est pour se retirer du monde, non. En fait, on n'est pas dans cette logique sectaire. On est dans une logique, comment dire ? C'est un besoin personnel de rééquilibrage par rapport à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche réactionnaire. Je voudrais revenir à un état antérieur qui était que c'était tellement mieux. On n'est pas dans une démarche résistante qui voudrait se maintenir contre la société ambiante. On est dans une acceptation assumée de la modernité. C'est-à-dire, je vis avec, mais je vis autrement. Et si on généralise un peu, si vous voulez, dans toute société, quand une norme devient dominante, ou une manière d'être, ça engendre en retour le désir d'une compensation, même ceux qui ne contestent pas la norme. Alors Régis Debray, une phrase formidable, il appelle ça l'effet de jogging. C'est quoi l'effet de jogging? Il dit, ben voilà, plus les gens ont eu des voitures, et plus les gens ont utilisé leur voiture pour des trajets de plus en plus courts, pour aller chercher du pain, ou pour aller chercher un gamin à l'école, plus ils se sont mis à courir, et à jogger. Et ils n'ont pas à renoncer à la voiture pour autant. Voilà. Donc au fond, mais si vous regardez dans la sphère qui est la nôtre, le succès extraordinaire des retraites dans les monastères ou des choses comme ça, c'est pas pour devenir moine. C'est pour replonger après, plus fort, régénérer, tout ce que vous voulez. Donc la démarche spirituelle, ça consiste pas à fuir le monde, pour les gens qu'on a interrogés, mais à donner de l'épaisseur au monde, s'en extraire et à en replonger en assumant. Voilà. Troisième idée toute faite. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas un refuge. Troisième idée toute faite, ça, c'est du bricolage spirituel. Alors ça, c'est ce que m'ont dit les évêques, on ouvre un truc, là, ils bricolent, on sait plus où est la vérité, et tout ça. Alors je leur ai expliqué que la vérité n'était pas le problème des gens dont on parlait, ce qui les a un peu déstabilisés. On est dans l'individualisation du croire, l'expression de Daniel Hervieux-Léger. C'est-à-dire qu'ils ne se privent pas de revisiter d'autres traditions que la leur, de s'adonner à d'autres pratiques que celles qu'on leur a enseignées, mais pour autant, ce n'est ni superficiel, ni syncrétique. Superficiel, ça veut dire, je vogue au-dessus de... Non, on s'aperçoit qu'on a des gens qui sont toujours, quand ils font des choses, dans l'approfondissement de ce qu'ils font. Et qui vivent des fidélités successives, d'une certaine manière, c'est comme en amour. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est volage, ça veut dire qu'on est fidèle, puis après, on est fidèle une deuxième fois, puis une troisième fois, voilà. Eh bien, c'est pas du zapping, ça. Hein? Et donc, au fond, pourquoi on dit que c'est du zapping? Parce que on se représente le spirituel comme un marché, ce qu'il est. Il suffit d'aller à la FNAC pour regarder les rayons. Moi, je suis allé pour voir s'il y avait mon bouquin, il n'y avait pas, d'ailleurs. Mais le rayon, je n'ai pas bien cherché, mais le rayon est absolument colossal. Donc, on en déduit que ça relève de la consommation. Non. On confond l'offre et l'usage. C'est-à-dire que le spirituel, il est présent partout. Vous regardez les rayons de la FNAC, effectivement, vous avez toutes les formes de spiritualité ou de trucs un peu bizarroïdos. Voilà, vous ouvrez un magazine féminin, on vous explique comment se rentrer sur soi-même, comment faire des visualisations positives, etc. Sans d'ailleurs souvent expliquer d'où ça vient. Mais c'est l'offre qui est consumériste. C'est pas l'usage. Et c'est justement parce que l'offre est très large que chacun peut choisir l'usage ou la démarche qui lui convient le mieux, et creuser. Et le reproche de superficialité s'associe à un reproche de syncrétisme, en disant qu'au fond, avec ce relativisme spirituel, tout ça, tout le monde fait des petites constructions baroques avec un petit bout de ceci, un petit bout de cela. Et c'est vrai que les gens qu'on a rencontrés se sont fortement éloignés du modèle explicatif unique. Hein. Mais ils peuvent associer plusieurs traditions ou retenir dans une tradition quoi ? Non pas ce qui les arrange, ce que leur reprochent les gens de l'institution, mais ce qui leur paraît essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, ils utilisent un truc que les jésuites ont inventé qui s'appelle le discernement. Mais ils l'utilisent pour éventuellement changer de trottoir. Mais ils utilisent le discernement. Ils procèdent par hiérarchisation, en distinguant clairement ce qui pour eux est au centre et ce qui pour eux est à la périphérie. Ce qui pour eux est fondamental et ce qui pour eux est accessoire. Donc au fond, ce qui rend compte de leur démarche, ce n'est pas l'équivalence ou le syncrétisme, c'est l'arborescence. Voilà. Et demain ? Alors moi, je suis sociologue. Donc moi, les sociologues, ils font des projections, mais dans le rétroviseur, généralement. Demain, c'est les prophètes. Et ça, c'est un métier que je ne pratique pas. Mais en tout cas, on parle des nouveaux comportements spirituels. Et si on parle des nouveaux comportements spirituels, c'est qu'on sous-entend que comme ils sont nouveaux, c'est probablement la préfiguration de ce qui va arriver après. C'est un peu les éclaireurs, et puis que ça se développe, etc. Mais en fait, je voudrais qu'on se souvienne juste d'une chose, et je terminerai là-dessus. On a vu que, compte tenu de leur âge, la majorité des chercheurs spirituels d'aujourd'hui, où qu'ils aillent ensuite, ne viennent pas de nulle part. Ils ont été formés par le christianisme, certains se reconnaissent encore explicitement comme chrétiens, et ils ont donc une tradition d'origine. Mais c'est une génération qui a la possibilité de faire retour aux sources, puisqu'il y a eu des sources. Mais la génération suivante, ça va poser un autre problème. Et moi, j'avais fait une enquête il y a longtemps à Bayard sur les connaissances culturelles, ou religieuses, pardon. C'est-à-dire qu'on posait des tas de questions, ben voilà, il y a combien d'évangiles, d'apôtres, tout un champ extrêmement large. Et on avait conclu qu'il y avait un très fort niveau de méconnaissance religieuse aujourd'hui, dans la population française. Mais en creusant, on s'est aperçu que cette méconnaissance cachait deux phénomènes. L'oubli, c'est « ah ouais, je l'ai su, mais je m'en souviens plus », ou alors « je m'en souviens de manière déformée ». Et l'ignorance, « je l'ai jamais su ». Voilà. Et on peut faire l'hypothèse que la méconnaissance religieuse est en train de changer de nature. Elle augmente au fil des années. Mais en augmentant, elle change de nature. Au fil des générations, on est en train de passer d'une situation dominante d'oubli à une situation dominante d'ignorance. Et que les générations montantes, elles sont le produit d'un chaînon de transmission manquant. Si tout autant que les précédentes, je fais l'hypothèse qu'elles seront sensibles à la recherche spirituelle, il n'y a aucun doute. Les voies qu'elles emprunteront, elles peuvent être profondément différentes, parce que tout leur sera initiation, dans toutes les traditions religieuses, y compris celles qui nourrissent leur propre société.